Je suis sûre que vous avez remarqué ça, mais quand j'étais à la fac, tout le monde autour de moi parlait de leur situation financière précaire, mangeait des nouilles ramen et partageait le loyer avec 5 colocataires. Je me souviens très bien d'une fois où l'une d'elles a vérifié son compte en banque avant de sortir au bar le week-end et qu'elle n'avait que 13 $. Elle a donc dit « Je ne vais prendre qu'un verre ». Et c'est un peu comme ça quand on a une vingtaine d'années. Ça ne me paraît ni bizarre, ni effrayant, ni mal. On n'est pas censé avoir d'argent à ce moment-là. Mais maintenant que j'approche de la trentaine, tout le monde autour de moi parle de leur situation financière précaire, trouve des petits boulots, trouve des colocataires et propose de partager le bon pain trouvé dans la benne derrière l'épicerie. Financièrement, on ne voit pas vraiment de signes de vieillissement ni de progrès. Du moins pas autant que je le pensais. J'ai lu un ou deux articles sur les millennials qui se trouvent enfin dans une situation financière décente, mais bon sang, ça a pris tellement de temps. C'est comme avoir 40 ans et se dire « Bon, je peux enfin respirer, ma vie est à moitié finie. » Même si je fais partie du petit pourcentage de chanceux qui s'en sort plutôt bien financièrement pour mon âge, je vis encore, à bien des égards, avec les mêmes habitudes de frugalité excessive que lorsque j'avais 20 ans. Et je suis généralement quelqu'un d'anxieux. Du coup, je suis très prudent et je parie qu'un seul faux pas et je pourrais être ruiné. Et je ne dis pas que les millennials ou la génération Z sont les premières générations à connaître des problèmes d'argent, car aucune génération n'y a échappé. Mais quand on regarde de vieilles photos, on entend des histoires de grands-parents qui pouvaient s'offrir une maison et avoir 2 enfants à 24 ans. Aujourd'hui, si un jeune achète une maison, ça peut faire la une des journaux. L'idée que les millennials sont moins bien lotis que leurs parents est désormais largement répandue, et il semble que la génération Z soit dans la même situation. Aujourd'hui, je souhaite aborder les raisons des difficultés financières des jeunes adultes. Il s'agit à la fois de raisons systémiques indépendantes de notre volonté et de choix personnels que nous pourrions améliorer individuellement. La question des revenus est complexe, car je pense que parfois, on en vient à la conclusion que le montant de ses revenus ne dépend que de soi. On est maître de ses choix. Type d'emploi, nombre d'emplois, horaire de travail et effort pour gravir les échelons et obtenir un emploi mieux rémunéré. On en retire ce que l'on y investit. Mais je pense que les revenus sont souvent bien loin de notre contrôle. Chercher des emplois bien payés et cumuler les postes, c'est possible, mais la décision d'embauche revient à d'autres. On a le pouvoir de se mettre dans la meilleure position possible, mais au final, il y a des limites. Même entrepreneur, on ne peut pas se payer 1 milliard de dollars par jour. La plupart d'entre nous sommes confrontés à de nombreuses contraintes de vie et de travail. Tout d'abord, les types d'emplois possibles dépendent largement de votre niveau d'éducation, qui dépend lui-même de votre lieu de résidence et du niveau de richesse de votre famille. Si vous avez grandi dans un quartier pauvre et au sein d'une famille pauvre, vos options d'éducation ne sont probablement pas très prometteuses. Et c'est tout simplement la mauvaise nouvelle. Le montant que vos parents pourraient contribuer à d'éventuelles études supérieures ne dépend pas de vous. Ainsi, si vous débutez avec un niveau d'éducation médiocre ou si vous êtes jeune, vous vous retrouverez coincé avec des emplois peu rémunérés. Mais même pour les millennials qui travaillent depuis un certain temps et ont peut-être eu l'opportunité d'obtenir une licence ou un diplôme supérieur, un problème plus vaste touche non seulement les ménages pauvres, mais aussi ceux de la classe moyenne, la stagnation des salaires. Ce problème existe depuis les années 1970. Mais dans les années 70, 80 et 90, les gens essayaient différentes tactiques pour compenser la stagnation des salaires tout en gardant un niveau de vie décent. Certaines des principales stratégies d'adaptation sont très bien présentées dans un documentaire intitulé « Inégalité pour tous », que je recommande vivement. Mais dans les années 2000, Lorsque les millennials ont commencé leurs études supérieures et sont entrés sur le marché du travail, ces stratégies étaient pratiquement épuisées. Juste pour le plaisir, j'ai décidé de consulter certains de mes anciens emplois pour voir comment leur salaire avait évolué au fil du temps. Mon premier emploi régulier était celui de préparateur de sandwich, il y a une quinzaine d'années. J'étais payé 725 $ au salaire minimum, un salaire qui, pour rappel, n'a pas augmenté depuis 2009, soit la plus longue période sans augmentation fédérale depuis son invention en 1938. Aujourd'hui, le même travail dans le métro est payé 13 $ de l'heure. J'utilise cette calculatrice du Bureau of Labor Statistics en ajustant l'inflation et le pouvoir d'achat du dollar actuel. Ce travail rapporte en gros 2 $ de plus qu'il y a 15 ans. Je pense que cela résume bien le sentiment des jeunes de 20 à 30 ans qui ont l'impression de faire du surplace. Car même si vous avez eu l'opportunité d'obtenir un emploi mieux rémunéré ou une augmentation depuis votre sortie de l'école grâce à la stagnation des salaires, ce n'est pas suffisant pour vraiment ressentir un impact. La grande majorité des gens, surtout les jeunes générations qui n'ont pas beaucoup progressé, se contentent du salaire fixé par leurs supérieurs hiérarchiques. Et vous, que faites-vous? Démissionnez à moins d'être mieux payé? Vous êtes jetable et quelqu'un de plus désespéré que vous acceptera certainement ce poste. Outre le manque d'argent entrant, la génération Z est aujourd'hui confrontée à un problème systémique de dépenses. Je parlerai plus tard dans cette vidéo des choix de dépenses personnelles, axés sur les envies plutôt que sur les besoins. Mais pour ce point précis, je parle uniquement de dépenses essentielles, logement, nourriture, transport, santé, etc. Et pour commencer, le logement, un besoin fondamental pour tous. Le nombre de jeunes adultes ayant dépassé l'âge universitaire habituel mais vivant chez leurs parents a augmenté de 87% depuis 20 ans. Les deux principales raisons invoquées par les millennials et la génération Z pour justifier cette décision sont les économies et l'impossibilité d'avoir leur propre logement. Vers la fin de la pandémie, les loyers ont explosé aux États-Unis. Et cela n'aurait peut-être pas été aussi grave si tant de personnes n'avaient pas été au chômage à l'époque. Et on peut oublier le prix d'une maison. Et oui, on peut choisir de postuler pour un appartement à 1 000 $ par mois plutôt qu'à 2 000 $. Mais là encore, il y a des limites. Même l'appartement le moins cher que l'on puisse trouver a un loyer mensuel que ce n'est pas vous qui décidez. C'est le propriétaire qui le fait. Et je suis même agacée par l'idée de suggérer de trouver l'appartement le moins cher de toute la ville, parce que c'est peut-être le loyer le plus bas. Mais cet appartement est probablement infesté de moisissures noires qui vont avoir des effets néfastes sur votre santé à long terme, ce qui vous coûtera de l'argent plus tard. Ou alors, il n'a pas de cuisine, vous dépenserez donc plus d'argent au restaurant qu'à la maison. Par ailleurs, en parlant de coûts de l'alimentation, je m'attends à ce que les prix des produits d'épicerie augmentent avec le temps. L'inflation est normale. Tant que les entreprises sont censées dégager des bénéfices d'année en année et que les ressources mondiales s'épuisent, les prix vont augmenter. Ce n'est pas vraiment mon problème. L'inflation n'est pas aussi grave si les revenus augmentent pour la suivre. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas. Depuis 1970, les salaires ont augmenté de 80%. Et l'indice national des prix à la consommation a augmenté de 500%. Cela a donc placé la génération Z loin derrière les générations précédentes en termes de pouvoir d'achat. Un autre problème auquel les jeunes sont confrontés en matière de dépenses est l'obsolescence programmée, les produits de première nécessité que vous achetez au quotidien. Le prix d'une poêle à frire, par exemple, n'a pas beaucoup augmenté au fil du temps. J'ai récemment regardé des casseroles et des poêles et je les ai trouvées plutôt raisonnables. Mais ce que vous n'avez peut-être pas prévu au départ dans votre budget, c'est de devoir les remplacer régulièrement lorsque leur revêtement se décolle. Les choses ne sont plus faites pour durer. Cela nous amène à la théorie des bottes, dont je pourrais parler encore longtemps, mais elle maintient les gens dans la pauvreté en rendant les articles de haute qualité hors de leur portée, les obligeant à payer plus cher à long terme en achetant plusieurs articles. Et il ne s'agit même pas seulement de garder les beaux vêtements hors de leur portée. J'ai l'impression que le nombre d'entreprises qui produisent de beaux vêtements est peut-être stable, voire a diminué, et que la quantité de déchets produits a explosé. C'est juste un autre problème de dépenses que les entreprises rendent particulièrement difficile pour les jeunes qui essaient simplement d'acheter ce dont nous avons besoin. Je pense que la stagnation des salaires et l'augmentation du coût de la vie sont en partie dues au choix délibéré des personnes fortunées et influentes. Et je ne pense pas qu'ils veuillent priver les millennials, ou la génération Z en particulier, de leur argent. C'est juste qu'ils veulent le garder entre leurs mains. Et naturellement, cela signifie qu'il sera refusé aux autres générations. Mais il y a aussi des raisons plus profondes aux difficultés des jeunes, qui, à mon avis, ne sont pas intentionnelles. Ce qui a vraiment déstabilisé les millennials, c'est qu'au moment où ils commençaient leur vie d'adulte, obtenaient leur diplôme et géraient leurs finances pour la première fois, l'économie s'est effondrée en 2008. Les PDG, les banquiers et les gestionnaires de fonds spéculatifs ne voulaient pas d'un effondrement du marché. Même s'ils s'en sont sortis sans problème, ce n'était pas leur intention. Ce n'était qu'un effet secondaire, et non une attaque ciblée contre les millennials. Mais les conséquences inattendues ont été qu'il a fallu beaucoup plus de temps et de difficultés aux millennials pour trouver des emplois bien rémunérés. La génération Z connaît une situation similaire. Beaucoup d'entre eux venaient d'obtenir leur diplôme au moment même de la pandémie. Cela a eu un impact négatif sur les finances de presque tout le monde, mais c'est surtout le cas des jeunes qui n'ont pas eu le temps de se constituer un filet de sécurité personnelle. Je pense qu'on attend des jeunes qu'ils commettent des erreurs financières et qu'ils ne soient pas d'emblée parfaitement informés en matière de finances. Je suis donc particulièrement agacée de voir qu'un seul mauvais choix peut vous hanter pendant 20, 30 ans. En matière d'éducation, depuis la génération I jusqu'à la génération Z, nous sommes coincés dans un scénario où un emploi bien rémunéré exige essentiellement une licence. Et il semble que non seulement cela va continuer à se produire avec l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail, mais que posséder un diplôme sera encore plus indispensable à la réussite financière future. Plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur contractent des dettes étudiantes. Et si le montant de la dette s'est stabilisé ces 10 dernières années, ce qui est une bonne chose, il semble aussi que ces circonstances deviennent la nouvelle norme en matière d'éducation, d'endettement et de revenus. Sans diplôme, vos chances de trouver un emploi bien rémunéré sont bien moindres. Et même avec un diplôme, vos chances de vivre avec peu ou pas de dettes sont bien moindres. En fait, les personnes endettées sont plus susceptibles d'avoir des dettes de toutes sortes. Peut-être parce que cela incite les jeunes de 18 ans à se familiariser avec l'endettement et à essayer d'en comprendre l'avenir complexe au moment de décider de leur avenir au lycée. On est condamné si on en a, et condamné si on n'en a pas. Je sais que j'exagère un peu les circonstances pour faire croire que les jeunes sont tellement fauchés qu'ils ne dépensent pas d'argent pour des choses amusantes. Or, ce n'est pas le cas. Même les personnes vivant sous le seuil de pauvreté achètent encore des choses dont elles n'ont pas besoin. Je souhaite donc parler de nos dépenses discrétionnaires, de la partie divertissement, de nos budgets et de son impact sur la situation financière de la génération Z. J'ai parcouru différents articles sur les habitudes d'achat, et je n'ai rien trouvé qui m'ait vraiment choqué, genre, oh mon Dieu, Gen Z dépense autant pour ça. Certes, elles dépensent plus en mode, beauté et produits de soins, mais bon, bien sûr, elles sont dans la fleur de l'âge. S'il y a un moment où l'on apprécie la mode, c'est probablement à 22 ans. Cela ne veut pas dire que dépenser des centaines d'euros en vêtements chaque mois soit justifié ou une gestion intelligente de son budget, car ce n'est évidemment pas le cas. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est le montant que la génération Z dépense en voyages et activités. J'ai d'ailleurs beaucoup entendu parler de ça sur Internet, à savoir que la génération Z privilégie les expériences aux biens matériels. Et on peut aussi plaider la cause des millennials, notamment avec l'exemple récent de la tournée des Eras. Les femmes dans la trentaine sont apparemment prêtes à débourser des milliers d'euros pour voir un de ces concerts. Les jeunes voyagent et partent en voyage. Même s'ils ont des dettes, même s'ils s'inquiètent pour leurs finances, ils se réservent une marge de manœuvre. Et c'est une chose à laquelle je m'identifie vraiment. Demandez à tous ceux avec qui j'ai travaillé, si je prends des congés payés, je pars dans un endroit excitant. Je voyage dans un endroit sympa. Je fais fructifier mon argent. Et en matière de priorité, 60% des membres de la génération Z ont déclaré préférer investir dans des expériences dès maintenant plutôt que d'épargner pour leur retraite. Donc, d'un côté, je suis un fervent partisan de voyager plus tôt, car on a probablement moins d'engagement, moins de responsabilités, financières et autres. On est probablement en meilleure santé et plus à même de partir à l'aventure. Cela peut contribuer à façonner son passage à l'âge adulte et à changer son regard sur les autres, le monde et les cultures. J'ai voyagé sac au dos à plusieurs reprises et cela a sans aucun doute changé ma vie pour le mieux. D'un autre côté, je ne peux pas dire que ce soit une bonne chose financièrement. On peut choisir des expériences moins chères, mais en général, les expériences sont souvent plus chères. Autre problème, si vous utilisez votre argent pour acheter des choses, il aura une valeur monétaire. Il pourra être revendu plus tard. Un concert ou des vacances n'auront jamais cette valeur. Je pourrais donc vous conseiller de ne pas dépenser pour ces expériences. Ce serait mauvais pour votre compte en banque. La sécurité financière peut apporter un sentiment de bonheur et réduire l'anxiété. Partir en voyage peut aussi vous apporter du bonheur et des souvenirs impérissables. On peut toujours avoir une chance de récupérer de l'argent, mais on ne peut jamais récupérer le temps mal utilisé. En parlant de transactions immatérielles, il ne s'agit pas seulement de voyages. Nous achetons de plus en plus de choses qui étaient autrefois des biens physiques, mais qui ne le sont plus. Et nous ne pouvons plus les posséder, car il s'agit plutôt de payer pour louer un service numérique pour une durée limitée. On ne possède plus de films, de musique, peut-être même de vêtements, de livres, ni même un jour de voiture. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut plus posséder ces choses. Ce n'est tout simplement pas aussi populaire que les services de location par abonnement. Les entreprises s'en détournent. Il en va de même pour la nouvelle génération de consommateurs. La génération Z est plus à l'aise que jamais avec la technologie, les commandes en ligne et les modèles de licence par abonnement. Ce sont des natifs du numérique. Et il semble aussi que nous soyons plus à l'aise que jamais avec l'argent invisible. À mon avis, cela ne présage rien de bon pour les finances à long terme de la génération Z. Si vous pensez à l'achat d'un film il y a 50 ans, vous n'aviez qu'une seule option. Vous vous rendiez dans un cinéma, vous retiriez de l'argent de votre poche, et vous regardiez le film immédiatement. Le coût du film est évident. Vous voyez les dollars quitter votre poche en échange de l'expérience. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'acceptent même pas les espèces. Et lorsque vous allez regarder un film sur Netflix, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une transaction. Votre portefeuille ressent la même chose. Votre banque ne vous avertit pas lorsque l'abonnement mensuel est débité de votre compte. Tout se passe dans le cloud ou derrière un rideau numérique. De nombreuses entreprises sont passées des achats uniques au modèle d'abonnement. Non pas que ce soit plus avantageux financièrement pour le consommateur, mais, comme le dit si bien Drew Gooden, je vous vends un produit que vous n'achetez qu'une fois et que vous pouvez conserver indéfiniment. Comment vais-je obtenir plus d'argent de votre part à l'avenir? Comment la file augmentera si la transaction est terminée? Ma principale préoccupation est que plus nous nous éloignons de ce que nous pensons posséder et de ce que nous estimons coûter, plus cette frontière devient floue et plus il est difficile de gérer ses finances intelligemment. L'adoption du modèle « acheter maintenant, payer plus tard » a créé une nouvelle rupture dans le processus de paiement, ce qui, à mon avis, rend la transaction encore plus invisible et irréelle. J'ai le même sentiment avec Apple Pay. C'est comme si vous tapotiez votre poignet et vous avez acheté quelque chose. C'est comme si c'était Black Mirror. Bientôt, on regardera une publicité sur notre téléphone et on nous dira « Clignez deux fois des yeux pour acheter, et vous l'achetez ». C'est trop facile d'acheter tout le temps maintenant. Peu importe où vous êtes et combien vous avez d'argent, que vous puissiez vous le permettre ou non. Je suis déçue par les entreprises comme Afterpay et CLA qui encouragent les consommateurs à acheter quelle que soit leur situation financière. Mais je suis aussi déçue que les consommateurs tombent dans le piège. Pendant la pandémie, les dépenses « acheter maintenant, payer plus tard » de la génération Z ont grimpé de 214% en un an. Et ce n'est pas comme si vous investissiez de l'argent dans quelque chose comme une maison ou des études que vous rembourserez plus tard. Le paiement fractionné est privilégié par la Gen Z et les millennials pour acheter des vêtements, surtout des chaussures. Et je sais que je vais probablement passer pour une grand-mère ou une personne plus sage que toi, mais je ne comprends tout simplement pas l'importance des chaussures. Et cela vient de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la mode. J'aime suivre les tendances et je connais les marques, la qualité, les tissus et les designs. Je viens de réaliser que ce n'est pas vraiment là que je veux investir mon argent. Je suis donc plus un observateur qu'un participant. Et peut-être que le même tournant attend Gen Z. On verra dans les prochaines années. Je sais que j'ai souvent imputé la responsabilité des difficultés financières de tant de jeunes à des forces extérieures et à des problèmes systémiques. C'est mon analyse. Je pense que c'est justifié. Mais je ne m'en sers pas comme excuse pour ne pas prendre de meilleures décisions financières, et je ne pense pas que vous devriez le faire non plus. C'est ce que je constate parfois chez les jeunes générations qui voient les problèmes s'accumuler dès le départ et abandonnent. On a tous vu des messages comme celui-ci. J'ai hâte de mourir. Honnêtement, j'ai hâte de mourir. Et je comprends. C'est décourageant. Essayer semble féodal. Quoi? Vous allez changer le système en faisant un budget? Les problèmes de stagnation des salaires, d'endettement étudiant et de récession qui surviennent au début de la vie adulte sont trop importants pour être résolus seuls en faisant des choix responsables. Ce stress et cette attitude pessimiste se reflètent dans les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur. Les jeunes générations doutent que les avantages d'un diplôme compensent son coût exorbitant. Le taux d'inscription des bacheliers entrant à l'université était de 70% en 2009, mais il est tombé à 62% en 2022. C'est tellement effrayant. Je déteste voir des gens renoncer à leurs études parce qu'elles sont trop chères. Je comprends leur situation, mais je sais ce que signifiera une population moins instruite à long terme, et ce n'est pas la prospérité financière. Je réalise cette vidéo au printemps 2025, et économiquement, les temps s'annoncent à nouveau sombres. Et c'est assez drôle, parce que certains articles que j'ai lus lors de mes recherches pour cette vidéo se terminent par un expert financier qui dit quelque chose comme « Eh bien, malgré toutes les données terrifiantes que je viens de vous montrer sur notre situation financière difficile, la génération Z est en réalité très créative en matière d'argent, avec ses activités annexes et son esprit d'épargne. » Comme si ces trucs et astuces suffiraient à nous sauver de la crise financière majeure à laquelle nous sommes confrontés. Cependant, ce n'est pas parce que cela ne suffit pas à résoudre tous les problèmes qu'il ne faut pas faire un effort pour être économe et responsable avec son argent. Être endetté, c'est pénible, mais je préfère 10 000 $ de dette à 30 000 $ par jour. 15 $ de l'heure, ce n'est pas suffisant pour un salaire horaire, mais entre ça et 725 $, je préfère les 15 $. Je sais que les courses sont trop chères, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste acheter des bananes bio, parce que, eh bien, tant pis. Je suis ruinée de toute façon. Je ne dis pas qu'il est impossible de se faire plaisir et de devoir toujours économiser chaque centime. Mais il existe d'autres moyens de s'en sortir. Il suffit d'essayer. Et au pire, vous n'épargnerez peut-être pas beaucoup, mais vous aurez appris des choses sur la gestion intelligente de votre argent et sur les meilleurs choix à faire. Vous pouvez aussi faire mieux tout en continuant à dire que le gouvernement, les systèmes et les institutions plus larges doivent faire mieux aussi. Je vais essayer. Ils doivent essayer. L'une des meilleures décisions que j'ai prises a été de transférer l'argent de mon compte d'épargne sur un compte d'épargne à haut rendement. Il m'a fallu 20 minutes pour enfin comprendre. Cela résoudra-t-il tous vos problèmes financiers? Non. Mais c'est déjà quelque chose. Et un petit quelque chose vaut mieux que d'abandonner. Je voudrais conclure cette vidéo en parlant des possibilités pour l'avenir financier des millennials et de la génération Z, ainsi que pour les futures générations de jeunes. Que pouvons-nous faire pour nous-mêmes maintenant? Et comment pouvons-nous inverser la tendance? Je l'ai déjà dit sur de nombreux sujets, mais je le répète. La première étape pour résoudre un problème est de le reconnaître et de mieux le comprendre. Pourquoi cette situation critique se produit-elle? Parlons-en et partageons nos connaissances. Lisez des livres ou des articles, regardez des documentaires, discutez avec vos proches. Concernant ce que je disais plus tôt sur les bas salaires, je sais que tout le monde n'est pas en mesure de le faire, mais dans un emploi précédent, j'ai analysé la situation avec mes collègues et j'ai eu le courage de donner des chiffres. J'ai découvert que j'étais le moins bien payé de tous les membres de mon équipe, même si j'avais une expérience égale ou supérieure à la leur. Cela m'a mis dans une bien meilleure position pour demander une augmentation. Peut-être êtes-vous dans une situation où se syndiquer est une option pour obtenir de meilleurs avantages sociaux. Sinon, vous pouvez simplement soutenir ceux qui le font. Rassemblez-vous, soyez au courant de tout ce qui sort et de tout ce qui rentre. Soyez organisé, il existe de nombreuses applications qui facilitent grandement les choses, ou vous pouvez simplement avoir votre propre document personnel. Si ces idées et cette prise de conscience se répandent auprès d'un nombre suffisant de personnes, on peut espérer qu'un changement systémique à grande échelle sera enfin à portée de main. Nous pouvons au moins essayer de changer du mieux que nous pouvons les systèmes financiers défaillants qui nous entourent. Peut-être que cela ne servira à rien. Peut-être que cela servira beaucoup. Mais on rate 100% des coups qu'on ne prend pas, vous savez? Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner. Et merci de l'avoir regardé.